Une question macro qui m'a beaucoup tourmenté cette semaine, surtout ce mois-ci en France avec les week-ends qui s'enchaînent, et je les prends aussi, hein, donc je me plains pas. Faut-il travailler plus pour relancer la croissance? L'Allemagne réfléchit à un plan de relance. Alors, un plan de relance sans dépenses, ils viennent de dire cette semaine que compte tenu du fait que les rentrées fiscales n'allaient pas être énormes, il n'y aurait pas de relance et pas de dépenses. J'ai juste une question. Aujourd'hui, en Allemagne, on a quand même l'impression que c'est un bateau sans capitaine. Donc, ils parlent d'un plan de relance, sans relance. Ça paraît ridicule.
Et son ministre des Finances qui dit on va avoir 81 milliards de recettes en moins fiscales sur 5 ans, donc on n'a pas le moyen de financer ce que vous demandez. Et surtout le chancelier qui se fait systématiquement contredire lorsque il y a cette idée de travailler plus pour relancer la machine productive. Il faut rappeler qu'au sein de l'OCDE, en termes de volume global de travail par travailleur, c'est l'Allemagne qui est très loin derrière les autres, 21% en dessous de l'OCDE. Et un débat permanent, sans cap. Et il y a aussi un tribune très intéressant dans le Handelsblatt, qui est le quotidien économique libéral de référence en Allemagne, donc il ne pousse pas au crime, si je puis dire, pour dire il faut absolument ne pas forcer les gens à trop travailler, il faut le temps partiel choisi, un discours qu'aurait pu tenir un quotidien de gauche classique, en disant que il y a d'autres solutions, soit l'immigration, soit l'amélioration de la productivité, soit l'immigration dans le débat public allemand est totalement hors de question d'un point de vue électoral.
Bien sûr.
Et l'amélioration de la productivité,
ça ne
se décrète pas, sauf solution miracle si demain les Allemands inventent un tas de machines-outils, un tas d'appareils industriels que strictement personne n'a vu venir. Peut-être, mais pour l'instant, ça ne se décrète pas.
Il y a une échéance, je ne connais pas bien le calendrier électoral allemand, il y a une échéance électorale...
Oui, dans les deux ans, mais au rythme où vont les choses, où vous avez, encore une fois, ces dissensions internes entre le pôle écologiste, le pôle libéral et le pôle social-démocrate, il devient de plus en plus difficile à concevoir de maintenir le cap jusqu'à la fin.
Même si la CDU reprend un peu du poil de la bête.
Elle reprend beaucoup du poil de la bête. Et d'ailleurs, c'est le ministre-président de Saxe qui, lui, veut passer à 40 heures de travail par semaine, à salaire égal. Donc, on est vraiment dans des propositions tous azimuts, sans, en revanche, fixer de cap réel.
C'est quand même, pour l'Europe, c'est dramatique, hein, d'avoir une Allemagne qui cherche comme ça, parce qu'on le sent, c'est l'impact est économique, politique, en termes de leadership. C'est un vrai débat d'économiste.
C'est pas comme d'aller Angela Merkel. Hein.
Moi, je la regrette tous les jours.
À lire ses mémoires, si je puis dire, qui sortent au mois de novembre.
Ah
c'est très intéressant. Oui.
C'est un cadeau à Marc. Arrêtez, vous allez me faire pleurer. Le débat théorique qui m'intéresse, c'est-à-dire, effectivement, est-ce que si on travaille plus, on génère plus de croissance, ou est-ce que c'est un débat qui me paraît un peu dépassé du fait de l'intelligence artificielle, du fait de la techno, du fait de la productivité?
Non,
on n'a pas un métro de retard.
Il est pas dépassé, mais il faut le prendre par le bon bout. C'est-à-dire que la question, c'est pas nécessairement d'augmenter le volume de travail des gens qui travaillent déjà aujourd'hui. Le problème qu'on a, par exemple, en France, mais aussi dans d'autres pays, c'est qu'on n'a pas suffisamment de personnes globalement au travail. Donc, en fait, il faut augmenter globalement le volume de travail dans tous les
le
plans.
Le taux de participation de la population.
Voilà, exactement. Okay. Que ce soit au début de sa vie professionnelle, à la fin de sa vie professionnelle, réformer effectivement plutôt les règles de l'assurance chômage, mais dans le sens où il faut davantage travailler pour avoir droit à des indemnités. Voilà. Essayer effectivement d'accélérer tout ça. Et puis le deuxième axe, et vous l'avez mentionné, c'est l'axe de la productivité. C'est-à-dire comment est-ce qu'on fait en sorte qu'avec les nouveaux outils qu'on a aujourd'hui, on les utilise au mieux pour accélérer la productivité. Normalement, on a... un exemple devant nous.
Ben Aoud Aldi, ça se décrète pas en fait.
Ça se décrète pas, mais ça peut s'observer. Alors effectivement, la productivité, c'est ce qui reste quand on a cherché à tout expliquer. On dit finalement le reste, ça doit être la productivité. Néanmoins, quand on voit ce qui s'est passé aux États-Unis sur les 2-3 derniers trimestres, on voit quand même que on a une poussée de la productivité. Alors il faut faire attention. C'est que 2-3 trimestres, il faut que ce soit confirmé, mais on voit quand même qu'on a quelque chose qui est en train de se passer. Donc regardons un peu ce qui est en train de se passer là-bas. Essayons d'utiliser ces outils et non pas, et ça je pense que c'est un combat commun qu'on a Marc, non pas essayer de les réglementer avant de les produire et avant de les utiliser. D'accord. Et une fois qu'on aura fait ça, on pourra effectivement générer suffisamment de richesses pour être puissant, pour exister dans les fameuses guerres commerciales et pour avoir effectivement ce rapport de force qui fait que les guerres commerciales ne seront même pas nécessaires. Donc ça pour nous c'est très important parce que moins on est fort, moins on est respecté et plus ce sera difficile dans un monde qui n'est plus du tout un monde sympathique géré par le
mais
droit.
Mais ce qui est intéressant c'est que vous dites qu'en fait l'idée de pousser des gens qui travaillent déjà à travailler un peu plus, ça ne changera pas beaucoup
non,
la donne.
Non, parce que déjà ils travaillent déjà beaucoup.
Louis de Montalembert, vous qui investissez que dans des boîtes qui visent à détruire le travail humain pour favoriser la techno et les robots, qu'est-ce que vous en pensez de ce débat?
Je pense qu'on n'échappe pas de l'équation que la croissance économique, c'est la variation du nombre d'unités de travail plus la productivité. Donc on peut toujours dire qu'on
va faire
des miracles.
C'est bon ce qu'il a
dit. Il est parfait.
On va faire des miracles en termes de...
On va faire vérifier parce que parfois il dit des trucs de façon...
Non, mais quand il entend des choses simples, extrêmement précis, extrêmement vrai.
Donc par conséquent, on peut toujours espérer des miracles en gain de productivité, mais néanmoins, plus d'unités de travail conduit à plus de création de richesses. À la fin des années 90, le gouvernement français avait imaginé que le travail se divisait. En fait, le travail se multiplie. Plus on travaille, plus on crée d'emplois. C'est comme ça que ça fonctionne. On ne partage pas les emplois.
Si, il y a du travail.
Non, mais...
C'est-à-dire qu'on va quand même avec l'évolution de la robotique, de l'intelligence
artificielle. Non, la question, c'est...
Quand Google dit 80% des boulots intermédiaires type tertiaire vont disparaître.
J'entends, mais même s'il y a du travail, le problème, c'est est-ce que les gens veulent travailler plus ? L'Allemagne, qui est un exemple que vous aimez bien, la retraite a été repoussée à 67 ans, et je crois que les gens préfèrent partir avec une décote, je crois que l'âge moyen de départ est autour de 65 ans, plutôt qu'aller jusqu'au bout. Autrement dit, le plus de travail par la réglementation n'a pas l'air véritablement de fonctionner. Donc effectivement,
on peut espérer
des gains de productivité, mais c'est pas nous qui les créons, ces gains de productivité. Visiblement, c'est un peu plus les Américains. Ça veut pas dire qu'on va pas en bénéficier, mais le gros des entreprises de technologie sont quand même aux États-Unis.
Absolument, et d'où le fossé dont parlait Wilfried tout à l'heure de productivité sur les trois derniers trimestres entre l'Europe et les États-Unis.
On en revient toujours à la même chose, c'est toujours une question d'investissement. Les investissements qu'on fait en Europe ne sont pas les bons dans les bonnes ressources, vers le bon capital humain. Donc, et les États-Unis, là-dessus, clairement, ils ont un énorme mètre d'avance. Donc tout réside là-dedans.
Donc vous dites, s'il n'y a pas d'investissement, il n'y a pas d'amélioration de productivité.
S'il n'y a pas d'amélioration de productivité,
en fait,
la clé de voûte, c'est la productivité, de toute façon.
Il n'y a pas de croissance sans inflation, en plus.
On peut mitiger ça quand même. On n'a pas créé la micro-informatique en Europe, et pour autant, on a tous bénéficié de la micro-informatique. Même si l'IA générative est créée aux US, on va tous bénéficier d'outils logiciels qui vont nous permettre d'avoir des gains de productivité.
Oui, mais on n'aura pas les champions de l'IA.
On aura numérique pour l'accueillir dans la transition.
C'est intéressant ce que vous dites. Vous avez raison, on va en profiter.
Si on nous autorise à le faire.
Mais on n'aura pas les champions de l'IA. Ouais.
Et on n'aura pas la création des champions.
D'ailleurs,
la micro-informatique, pour autant, on utilise tous de la micro-informatique.
Nos champions partent aux États-Unis exercer leur talent en prime, très tôt.
Benahouda, il y avait un point que vous vouliez rajouter. Moi, j'avais une question, c'est qui dirige l'Europe aujourd'hui ?
Personne. Oui, excellente question. Personne. Non, strictement personne.
C'est inquiétant ce que vous dites.
Mais parce qu'on en revient peut-être aussi à l'idée européenne qui est que c'est une responsabilité diffuse et une somme de responsabilités diffuses de laquelle jaillit une responsabilité. Et de ce point de vue-là, encore une fois, l'Union européenne est un exemple unique au monde.
C'est une cathédrale juridique d'abord et avant tout.
Voilà. Peut-être que pour l'instant, c'est la commissaire européenne à la concurrence, effectivement, parce que c'est elle qui est en train de mener les enquêtes anti-dumping et qui est au centre et au cœur de la. Mais juste un point concernant la Chine, pour revenir au point de départ, vous avez vu le président du fonds souverain norvégien qui reproche aux gens de ne pas travailler. On a l'impression d'écouter exactement ce que disait le président du fonds souverain chinois qui traitait l'Europe d'indolente et paresseuse lors de la crise de la dette de la zone euro. Ce que vous avez peut-être vu que cette semaine, une chaîne de supermarchés chinoise a décidé de décréter 10 jours de congés payés pour si vous ne vous sentez pas bien, mal-être, sans avoir à justifier cela auprès de la DRH. Donc, c'est peut-être le cours de l'histoire que lorsqu'une grande nation progresse dans l'échelle de l'économie, c'est finalement s'aligne sur le standard le plus élevé qui est celui de l'Europe.
Mais d'ailleurs, le modèle français va être le modèle d'avenir pour tous les pays.
Il n'y a pas de congé mal-être.
Mais d'ailleurs, il y a de très grands débats en Chine sur l'âge de la retraite. Ouais. Où en fait, l'âge de la retraite est aujourd'hui extrêmement faible pour des raisons historiques. Et il y a eu des discussions très, très sérieuses pour justement repousser cet âge-là parce qu'ils ont un problème de volume de travail, justement, parce que leur population active baisse. Et les Chinois n'en veulent absolument pas.
Donc on peut rêver qu'un jour, le mois de mai sera pareil dans tous les
autres pays. Le
mois de mai à la française,
voilà,
ça sera, c'est fabuleux. Si ça, c'est un rêve qu'on va tous partager.